Il y a le cadre structurel et puis il y a le cadre idéologique politique qu'on retrouve dans les médias. C'est difficile de sortir un petit peu de ce cadre. Alors, avant de parler un petit peu d'autres médias qui essaient justement d'utiliser d'autres cadres peut-être ou d'élargir le cadre, à l'intérieur des médias dominants, on pourrait se dire il y a aussi des luttes internes des journalistes qui se battent pour que tel ou tel sujet soit plus long, qu'il y ait moins de faits divers, que l'actu social soit traité correctement, par le biais des syndicats aussi. Alors comment ça se passe concrètement? Il y a un rapport de force défavorable?
Alors, hein, c'était Bourdieu qui disait, c'est bien beau de dire que les journalistes, il faut qu'ils soient gouvernés par une éthique, si on ne met pas un cadre de loi qui protège cette éthique. Il faut donner des moyens aussi aux journalistes d'être indépendants. Il y avait une des ordonnances en 44 qui était indépendance des rédactions. Ils pouvaient avoir le droit de veto contre le propriétaire, le nouveau propriétaire qui allait prendre en main le journal. Donc, c'est bien beau de dire de l'éthique, mais il faut encore en donner les moyens. Il y a des rapports de force, mais qui commencent à devenir compliqués. Moi, je vous parlais tout à l'heure que j'ai fait l'UT journaliste de Bordeaux en 1987, j'avais 27 ans. Mon frère l'a fait, lui aussi à 27 ans, il a 50 plus que moi. En 81, il avait été 4 ans chez Ford comme technicien délégué CGT. Donc ça donnait des profils de recrutement différents parce qu'on pouvait encore trouver du boulot. Maintenant, on recruterait des personnes comme nous, on irait directement au chômage parce qu'on nous prendrait pas dans les médias dominants. Et la preuve, c'est qu'on ne travaille plus dans des médias dominants. Pas uniquement parce qu'on ne veut pas, c'est parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas dans le cadre actuel. Donc il y a un genre de clonage, de recrutement qui est en train de se faire via des écoles de journalisme qui correspond au profil demandé par les médias tels qu'ils sont organisés. Ça faut bien le dire. Donc la lutte est un peu plus difficile parce que y a une adéquation un peu plus grande entre le recrutement des journalistes, des futurs journalistes par les écoles de journalisme et après la demande du marché. Bon, il y a une adéquation. Mais il y a quand même des résistances. Le premier syndicat, c'est le SNJ, Syndicat National des Journalistes. Enfin, c'est le premier en termes de vote. En termes d'adhérents, les journalistes sont peu syndiqués. On l'a vu par exemple avec la grève de Radio France. Les journalistes de Radio France n'ont quasiment pas fait grève pendant 4 semaines. Quasiment. Il n'y a eu quasiment aucun journaliste qui a fait grève. Enfin, faut quand même le voir. 4 semaines de grève, les mecs ne font pas grève. Alors qu'il y a restructuration, plan de licenciement, fusion des rédactions, etc. Donc des choses qui pourraient quand même leur faire peur, les mecs qui ne font pas grève. Donc voilà, il y a une réalité. Alors il y a quand même des résistances. Il y a un syndicat qui s'appelle le SNJ-CGT qui commence à. Enfin, qui a quand même un certain nombre, qui représente le deuxième syndicat en termes de vote. Il y a des créations de Sud hein, aussi. Il y a des résistances, mais elles sont difficiles, hein, faut le dire. Après, ça ne veut pas dire que des journalistes ne font pas correctement leur travail dans certaines rédactions, notamment du service public. France Télévisions un peu, Radio France un peu quand même. Hein. Après, dans d'autres médias comme BFM, TF1, c'est beaucoup plus dur. Hein. C'est beaucoup plus dur parce que là, vous êtes broyés. Hein. Europe 1 et RTL, c'est pareil. Hein. C'est pas la joie. Alors, dans des journaux plus, hein, Le Monde, il y a encore quelques bons journalistes. Libé, Le Figaro a été longtemps connu pour avoir un très bon service de politique étrangère internationale, hein, beaucoup plus indépendant que les autres, hein, faisant pas, par exemple, pas une politique pro-OTAN. Hein. Quand il y a l'affaire du Kosovo, par exemple. Le Figaro travaillait bien. Il y avait un gars qui s'appelait Saint-Exupéry qui a créé Revue 21, qui est parti. Donc, on peut encore trouver dans des médias, quelquefois, des bons articles, un bon travail. Mais ça devient de plus en plus difficile pour ces journalistes de résister, de s'imposer. J'ai juste discuté avec Lordon, là, Frédéric Lordon, l'économiste qui est passé chez Tadi récemment, là, face à Piketty, Thomas Piketty, l'autre économiste. Apparemment, les gars lui ont raconté la difficulté d'organiser une telle émission. La direction de France 2 est venue dire, mais c'est impossible, non, deux économistes de gauche, n'importe quoi, ça n'a pas été écouté. Il y a eu des pressions énormes pour que l'émission ne se fasse pas. Voilà, c'est une réalité, hein. Et c'est une réalité, mais immense, immense. Il y a un manque de démocratie, de pluralité dans la presse française. Enfin, c'est même plus qu'un manque de pluralité. Nombre de journalistes de qualité, moi je pense à Siran, hein, qui a été le créateur de CQFD, qui était le rédacteur en chef du Plan B. Des gars comme François Ruffin, ce sont des gens qui gagnent 700, 800, 600 euros, 1 000 euros par mois, même pas. Et ce sont des journalistes qui ont fait des écoles de journalistes, etc. Ça devient de plus en plus difficile. D'ailleurs, en presse indépendante, on fait vite le tour. En presse écrite, on fait vite le tour. Hein. Il reste l'Humain, La Croix, Marianne, Le Canard Enchaîné. Je parle en presse un peu d'importance. Hein. Bon, il y a Politis, etc. Mais faut voir les salaires. Hein. On va avoir l'occasion d'en parler. Là. De presse un peu dominante, entre guillemets, parce que l'Humanité n'est pas vraiment ni La Croix, une presse dominante, mais c'est vite fait. Et en radio, télévision, après, vous n'avez que des radios commerciales, à part vous. Mais vous, c'est encore autre chose. Et après, le service public, bon, France Culture, qui encore fait une information un peu différente. Pas idéologiquement, mais en termes de hiérarchie, ils vont privilégier plutôt l'international, plutôt que les faits divers, plutôt que le sport, en une. France Culture privilégie encore tout ce qui est international, politique intérieure. Hein. La hiérarchie de l'information, avant la dérégulation, il y avait deux types d'informations. Il y avait faits divers, people, sport, etc. Alors, on peut aimer ou pas aimer, il n'y a pas de mépris là-dedans. Et il y avait une autre information qui était la hiérarchie, c'était le monde, hein, politique étrangère, internationale, politique intérieure, économie sociale. C'est ça qui devait arriver en une. Et les faits divers, et les sports, et le people n'étaient pas une bonne information. Mais au moins, il y avait une pluralité. On peut être d'accord ou pas. Hein. Moi, je privilégie un ce type d'information. Effectivement, celle-là. Mais après, je peux comprendre qu'on puisse regarder autre chose. Mais là, il n'y a même plus de minimum syndical démocratique. Il n'y a quasiment plus de minimum. On n'est plus dans une démocratie bourgeoise, en plus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de minimum syndical. Il y a un type d'information prégnant, majoritaire à 80-90%, et après un peu d'informations différentes de l'autre côté.
Alors, les médias alternatifs dans tout ça, parce que vous avez parlé de personnes, de journalistes, finalement, qui ont créé d'autres médias, 21, Fakir, bon, il y a énormément de titres qui existent, le monde diplomatique, c'est une autre histoire aussi. Les médias alternatifs, c'est aussi une critique en acte des médias dominants. Alors, comment vous voyez cette presse alternative, vous ?
Alors, vous parliez des nouveaux chiens de garde, donc ça a été un énorme succès. Ça a été le documentaire français le plus vu en salle depuis 10 ans, à un moment, hein, après Être et Avoir, le documentaire de Philibert sur une classe d'instit dans le Puy-de-Dôme. Donc, il y a eu 250 000 entrées, ce qui en documentaire est beaucoup en salle de cinéma, beaucoup de DVD vendus, et après, énormément de projections militante à droite à gauche, et ça continue à être projeté. Dans ces débats-là a été posée la qualité de l'information. Donc du coup, grosso modo, à juste titre, on lutte contre la malbouffe, il est grand temps de lutter contre la malinfo. Bon, ça c'est des slogans qui passent de plus en plus, hein. En tout cas de plus en plus pour certaines personnes, je ne dis pas que c'est majoritaire, loin de là, mais il y a une conscientisation de ça. Et ça c'est important, c'est-à-dire grosso modo, les résistants, le CNR, faisait de nous des citoyens éclairés. La presse était un bien public, au même titre que l'éducation et la santé. La marchandisation de l'info a fait de nous, au mieux, des consommateurs un peu avertis, au pire, serviles. Voilà, on a été transformés de citoyens à consommateurs. Ça, c'est important. Il est grand temps, peut-être, de reprendre conscience que nous sommes avant tout des citoyens, que l'information est un bien et non pas une marchandise. On ne choisit pas comme des fringues ou une bagnole de l'information. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, effectivement, la malinfo, comme la malbouffe, pollue les esprits, pollue la démocratie. Et on avait sorti ce slogan qui était « Il est grand temps de réclamer de l'info bio fabriquée par des journalistes, élevée en plein air, entièrement nourrie à l'investigation, sans trace de libéralisme, de publicité et de conservateur ». Voire de conservatisme. Ça marche, le parallèle marche aussi bien. Donc ça, c'est intéressant qu'il y ait cette prise de conscience peu à peu qui est en train de se mettre en place. Et donc je pense que l'accélération d'un processus qui a toujours existé de contre-information peut maintenant prendre une forme plus importante. Hein, un peu comme les AMAP, par exemple, sont créés, un peu comme la production d'une bouffe différente alternative s'est créée, aussi bien en production qu'en distribution, peut-être qu'au niveau de l'information, ça se met en place. Hein. Mais Mediapart en est l'exemple, la multiplication de ces médias alternatifs, de presse écrite ou de radio. En télévision, c'est plus dur parce que c'est plus cher, c'est plus lourd. En est le signe. Ça c'est quand même quelque chose d'important. Et effectivement, c'était Pierre Imbert qui disait il y a une grande richesse éditoriale, au fond, en France, dans les radios libres, dans les journaux alternatifs, etc. Il manque les moyens. S'il y avait les moyens pour développer cette imagination éditoriale, on pourrait avoir des choses très intéressantes. On en a déjà, le bât blesse sur le financement. Ça, c'est une vraie question. Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas forcément de la presse alternative dont il faut parler, c'est de la presse tout court. C'est de la pluralité de la presse. Cette presse alternative représente une chance de pluralité par rapport à la presse dominante et la façon univoque de faire de l'information. Mais cette presse bute, pour le moment, avec une conscientisation qui arrive de la part d'un public, sur des problèmes économiques pour faire vivre dignement ces journalistes. Pourquoi une presse alternative devrait payer d'une façon alternative des journalistes ? Il n'y a pas d'infirmière alternative ou de professeur alternatif à 400 euros par mois. Pourquoi il y aurait des journalistes alternatifs à 400 euros par mois ?